Que vous votiez ou que vous ne votiez pas, cela ne nous regarde pas. Début mars, après une mûre et solide réflexion, la petite équipe de Radio Pulse s'est mise au défi d'interviewer l'ensemble des 10 candidats au présidentiel de 2012. Nous nous sommes dit que beaucoup d'entre vous sont hermétiques à la campagne. Nous avons donc décidé d'en avoir une approche différente de celle abordée par les médias traditionnels. Lors de nos différentes interviews avec les militants, les candidats, nous leur avons posé les questions que vous, auditrices et auditeurs, nous avez transmises.
Je voulais savoir, est-ce que c'est aussi que la buvette du stade, elles sont ouvertes même quand il n'y a pas de match?
Mercredi 18 et jeudi 19 avril, dès 18h sur Pulse 97FM, vous aurez l'occasion de savoir si nous avons réussi à relever le défi. Vous êtes sur Pulse, un pavé dans ton nu. On a une émission exceptionnelle ce soir consacrée aux 10 candidats des élections présidentielles. On continue tout de suite avec la candidature du président sortant.
Je veux une république irréprochable. Le président de la République, c'est l'homme de la nation. Ce n'est pas l'homme d'un parti. Ce n'est pas l'homme d'un clan. Je veux donner à chacun sa chance. Je veux être le président de tous les Français. Je veux que tous sachent que dans mon esprit, comme dans mon cœur, ils ont une place. Ils ont un avenir. Je veux que les nominations soient irréprochables. Je veux que le Parlement ait davantage de pouvoir. Je veux que les ministres soient moins nombreux, 15 au maximum, et qu'ils rendent des comptes, qu'ils s'engagent sur des résultats. Je veux défendre la 5e République. Mais je veux changer la pratique de la République. Plus de simplicité, plus de proximité, plus d'humilité, plus d'authenticité. Au fond, je souhaite, si vous me faites confiance, être le président d'une démocratie moderne qui sera exemplaire au regard du monde.
Bien, la décision que vous regrettez le plus depuis votre arrivée à Matignon.
En général, la règle, c'est de ne rien regretter.
Il y a 8 millions de mal logés, et les loyers ne font que grimper. Les aides sociales, on vous les a coupées, et sous les ponts, va falloir se serrer.
Donc, Madame Pécresse, vous êtes là, entre autres, pour défendre le bilan de Nicolas Sarkozy. Ça doit quand même être quelque chose de relativement compliqué. Pourtant, vous avez l'air en pleine forme quand vous faites.
Parce que je crois à ce que je dis. Et je sais que le président a protégé les Français dans la crise. Je sais que nous avons moins souffert de la crise que tous nos voisins, et je sais aussi que ce qui est devant nous, c'est un quinquennat d'efforts et de réformes, et que quand François Hollande nous dit on peut dépenser plus, ou quand il nous dit je vais faire 50 milliards d'impôts en plus, eh bien ça c'est un contresens absolu, les Français paieront et le pays souffrira.
Alors il y a 5 ans, monsieur Sarkozy nous promettait qu'à l'issue de son mandat il n'y aurait plus de SDF, qu'il réduirait les inégalités. 5 ans après, on constate que la situation s'est nettement empirée. Donc est-ce que malgré tout, vous avez encore de l'espoir ?
Oui, parce que nous avons traversé une crise absolument sans précédent depuis 1945. Alors j'entends bien, les socialistes font comme si la crise n'existait pas. Mais cette crise, elle a laissé des pays entiers sur le carreau. Vous savez qu'en Espagne, en Grèce, au Portugal, on a baissé les retraites, on a baissé les salaires, on a baissé les dépenses sociales. Et bien rien de tout ça n'est arrivé en France. C'est peut-être grâce à Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé faire baisser le chômage, c'est vrai qu'on aurait aimé faire baisser la pauvreté, mais toutes les actions que nous avons faites ont été là pour protéger les plus fragiles, et nous avons aussi sauvé notre système de retraite.
Et en tant que ministre du budget, est-ce que vous ne craignez pas qu'en France, à l'avenir, il risque de se passer le même phénomène justement qu'en Grèce ou qu'en Italie, où on a vu littéralement la démocratie volée par les banquiers, puisqu'on a élu, les deux représentants de ces pays maintenant sont des ex-Goldman Sachs. Alors est-ce que c'est pas une situation qui vous fait peur pour l'avenir de la France ?
En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faut des politiques à la tête de la France, parce que nous avons aussi des enjeux très importants, la réforme de l'Europe, une Europe moins naïve, une Europe plus forte, ce que porte Nicolas Sarkozy pour nous faire gagner face aux pays émergents. Donc nous sommes dans une compétition qui est mondiale, on a besoin de politique, mais évidemment, je suis inquiète parce que je pense que le programme de François Hollande, effectivement, est de nature à emmener la France dans le mur.
J'ai écouté très attentivement votre meeting à l'instant. J'ai remarqué que vous avez beaucoup parlé du système social qui coûte excessivement cher, le RSA, etc. Vous êtes aussi le gouvernement qui a mis en place le bouclier bouclier fiscal. Et est-ce que vous trouvez pas anormal, par exemple, que la secrétaire de Madame Bettencourt paye moins d'impôts que sa patronne milliardaire ?
Alors d'abord, le bouclier fiscal, nous l'avons supprimé.
Vous pensez que ça a été une erreur ?
On a dit qu'on le supprimait. On l'a supprimé parce qu'il y avait la crise et que dans la crise, on a demandé plus à ceux qui avaient plus. Donc c'est complètement faux de dire qu'on n'a pas augmenté les impôts pour les plus riches. On a augmenté les impôts pour les plus riches dans ce quinquennat. Et je remarque d'ailleurs que François Hollande propose de remettre le bouclier fiscal maintenant. Alors c'est un peu paradoxal, c'est un peu le monde à l'envers. Bon, mais sur cette question des inégalités, je n'ai pas dit que les dépenses sociales étaient excessives. J'ai dit que nous avions fait beaucoup de dépenses sociales pour protéger les plus fragiles dans la crise et que ça, les Français ne s'en n'était pas rendu compte et que si nous avions fait le bouclier fiscal et puis ensuite supprimé, nous avons fait aussi le bouclier social qui s'appelle le revenu de solidarité active. C'est une avancée sociale qui a sauvé 150 000 familles de la pauvreté.
Merci Madame Pécresse.
Alors s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je vide des caisses qui sont déjà vides ? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui je n'ai pas à donner d'ordre ? Si c'est ça votre conception de la politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde.
En édition spéciale, Flash Info.
What the fuck ?
Énervé, Vox Populi et Radio Pulse 90 FM.
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France.
What the fuck?
C'est un fils immigré, banlieue ouest, en plein cœur du 9-2. Dans son ghetto de Neuilly, à l'abri du bruit et du feu. Petit loup affamé aux canines acérées sans faiblesse. Trop agité, trop jeune pour avoir quelques dents de sagesse. Petit maire d'intérieur n'a de rêve que la fonction suprême. On voit déjà Marianne à la peine pleurer comme une madeleine. On pourrait bientôt trembler. On pourrait bientôt trembler. Pour l'amour de la haine, on pourrait bientôt trembler. Du mentor, il applique à la lettre. Sur la pointe des pieds, l'élève est prêt à dépasser son maître. Petit maître à penser, c'est bien cultiver ses sales idées. C'est facile la récolte quand on sème dans le champ d'à côté. Marcher sur les plates-bandes du voisin, on dirait pas que ça gêne. Flatter, caresser les extrêmes, on sait déjà où ça mène. On pourrait bientôt trembler. On pourrait bientôt trembler. Pour l'amour de la haine, on pourrait bientôt trembler. Pour cet amour qui gangrène.
Eh bien, à l'instant, c'était No One is Innocent, Amour de la haine. Précédemment, vous avez reconnu la voix de Valérie Pécresse, ministre du Budget, que j'ai eu l'occasion d'interviewer le 15 avril dernier.
C'est un fils immigré, intégré, toujours à son aise. Nous fait croire qu'on éteint l'incendie en soufflant sur les braises. Pur produit de la peur, pas de quartier au cœur de la cité. C'est la chasse à l'humain, c'est l'amour de la haine qui gangrène. Petit fils d'étranger, bien élevé, aurais-tu oublié ton passé, ton passé.
Nous sommes le 6 avril 2012, à l'approche du meeting de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire aux Zénith de Caen.
Alors, les centaines de CRS
qui bouche un petit peu toutes les rues. Même avec une carte de presse, c'est extrêmement difficile de pouvoir approcher Nicolas Sarkozy ou ses porte-parole.
Puisqu'on a essayé, impossible.
On va essayer de poser trois questions à des jeunes. Excusez-moi, jeunes gens. Hop là, vous étiez au meeting?
Ouais.
Il y a possibilité de vous poser des questions de 3 minutes?
Oui, c'est
possible. Alors, vous m'avez l'air bien jeune, vous êtes des jeunes militants UMP?
Non, pas du tout. On n'a pas du tout notre carte. Nous, on est venus là pour se renseigner.
Ouais.
Comme ça, il passait à Caen, on a profité.
Et par rapport à son bilan des 5 dernières années, il y a des choses qui vous ont intéressé, qui vous ont donné particulièrement envie de venir le voir aujourd'hui?
Bah oui, justement, je voulais voir qu'est-ce qu'il avait à proposer de nouveau, qu'est-ce qui pouvait être intéressant. Moi, je suis pas du tout, j'ai pas encore pris parti. Moi, justement, je me renseigne beaucoup grâce à la télévision, grâce aux meetings comme ça. Et justement, je voulais voir les différences qu'il y avait avec il y a 5 ans. Et y en a quelques-unes, même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit.
Mais... D'accord. Et comment vous, enfin, je sais pas quel âge vous avez, je veux pas être indiscret, mais à peu près.
19 ans.
19 ans.
Oh, oui.
Comment jugez-vous les 5 ans passés avec M. Sarkozy au pouvoir?
Alors. Pour avoir un bus le 11.
Mais il n'y est pas, mais justement,
oui,
je crois qu'il faut marcher.
On nous a dit qu'il fallait aller jusqu'à l'hôtel de ville.
Ah, parce qu'ils veulent plus nous laisser rentrer, en fait.
Non, mais c'est pour venir par là, moi. C'est pour aller à Caen, pour prendre le tram.
Bah, on est dans le même cas que vous, je crois qu'il faut continuer à marcher.
Courage.
Pas mal que répondre.
Non, mais c'est vrai, nous aussi, on a du marcher.
Donc, je sais plus où vous êtes, excusez-moi.
Non, c'est pas grave.
Donc, le bilan sur ces cinq dernières années, est-ce qu'il y a des choses que vous retenez positives, d'autres moins? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a plus déplu?
Moi, je pense que voilà, on peut reprocher des choses, mais je pense que ça va être des choses qu'on va reprocher, je pense, à tous les pays européens ou tous les pays dans le monde. Je pense que voilà, c'est en fonction de la situation dans le monde, de la crise économique. Je pense, voilà, qu'on peut reprocher des choses comme la situation financière, le fait que voilà, des gens se sont retrouvés au chômage, l'augmentation du chômage, tout ça. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir parce qu'il a quand même su gérer la situation, il a quand même su garder son implication, et on n'est pas dans la situation qu'est l'Espagne ou l'Italie ou la Grèce, comme il l'a dit dans son discours. Donc je pense que voilà, il a quand même assumé.
Vous n'avez pas peur que la situation grecque ou la situation espagnole, italienne arrive en France très prochainement?
Bah alors, justement, c'est ce qui... Avec les accords de Schengen, c'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est qu'il veut vraiment pas qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Justement, il est pour une France forte, comme il l'explique. Et donc, bien sûr, ça peut être nos craintes, je pense, surtout pour les jeunes, de se dire que voilà, dans le futur, notre futur peut être compromis. Et quand on voit les pays, nos pays voisins, on peut se rapprocher de cette situation. Mais je pense qu'on a une économie différente, et donc si on s'implique, et je pense que voilà, on peut s'en sortir et qu'il n'y a pas de négativité. Voilà.
Une dernière question, après je vous laisse tranquille.
Non, parce
que... Mais donc on dit que la jeunesse n'a plus espoir en France. Alors est-ce que Sarkozy a réussi à vous redonner espoir?
Que ce soit politiquement ou autre, on a espoir, sinon on serait pas là et enfin on ferait pas d'études. Surtout nous, on a pour 5 ans, donc. On resterait chez nous, donc oui, que ce soit dans la politique ou dans toute autre chose, on a espoir.
Je pense qu'on n'est vraiment pas des personnes pessimistes. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'optimiste. Et c'est pas Sarkozy, oui, il nous donne envie d'avancer, mais c'est aussi que je suis quelqu'un à la base qui comprend que la situation est difficile et que moi, je veux m'en sortir. Je veux pas avoir des choses à regretter plus tard. Et donc, je ferai tout pour essayer de sortir la situation économique, même si c'est à petite échelle, voilà, d'aider le pays à aller mieux.
Ok, bah je vous remercie alors. Excusez-moi, mademoiselle. Bonjour, vous étiez au meeting?
Oui, vous voyez, j'ai le drapeau.
Je peux vous poser 3 questions vite fait?
Bah si vous voulez, mais juste avant, dites-moi, parce que à la base, je suis pas trop sarco.
Ah bon?
Mais un peu quand même.
Bon. Là, je mets mon petit casque alors.
Mais vous allez dire quoi? Juste.
Oh, c'est des questions plus de bateau, c'est pas bien grave, c'est enregistrement, vous inquiétez pas. Donc, vous étiez donc au meeting de Nicolas Sarkozy ce soir au Zénith. Est-ce qu'il a réussi à vous donner de l'espoir pour l'avenir?
Ah oui, tout à fait. À un moment, moi j'étais dans la haie d'honneur, du coup on levait nos drapeaux, il y avait toute une jeunesse qui était là. Et je pense que l'espoir, c'est la jeunesse. Du coup, la jeunesse était vraiment présente avec Sarkozy, et ce qui montre qu'il y a de l'espoir forcément.
Et malgré un bilan, il faut le dire, qui est quand même difficile à défendre, malgré tout, vous avez quand même encore espoir aujourd'hui?
C'est clair qu'il y a un bilan qui est difficile, mais je pense que parmi tous les autres candidats, il y a quand même un espoir qui ressort, c'est qu'il veut redorer le blason de la France, et je trouve que c'est hyper important. À côté, des autres candidats qui... Je pense que c'est celui qui veut redorer le blason de la France et qui montre les plus belles valeurs qui peuvent faire respirer la France, en effet, et les jeunes plus particulièrement.
Donc, suite à un certain nombre de discours un peu réguliers de la part de M. Sarkozy ou de M. Guéant, la plupart des Français considèrent que la frontière entre le Front National et l'UMP est devenue extrêmement fine. Quel est votre point de vue là-dessus ?
J'en suis la preuve unique, puisque bon, je suis peut-être un peu jeune pour parler de ça, mais c'est vrai que cette barrière est assez fine. Pas mal de personnes ont été déçues par Sarkozy, ce qui fait qu'on a envie de voter Front National. Ça paraît peut-être un peu, aux élections de 2008, ça paraissait totalement... totalement impensable, sachant qu'il y avait des manifestations, des gens de l'UMP qui n'étaient pas contents parce que Le Pen était justement au deuxième tour. Et aujourd'hui, ça nous paraîtrait pas si incohérent que ça, finalement.
Pourtant, le Front National, c'est le parti fasciste français qui reprend également le même logo que Mussolini à l'époque en Italie. C'est un peu rude quand même, toutefois. Est-ce que c'est vraiment signe d'un grand désespoir ?
Ah, comment ça, un grand désespoir ?
Je sais pas, Front National, UMP, qui se rapproche un petit peu, Monsieur Guéant qui fait tout un tas de communiqués, Monsieur Sarkozy aussi, qui sont...
Attendez, l'avenir de la France, c'est quoi ? C'est le travail, c'est avoir une bonne éducation, c'est avoir un budget pour pouvoir financer des études, voilà, c'est pas essayer de... Enfin, après, moi je suis pour Sarkozy ou pour cette partie qui est à la droite. Donc évidemment, je vais pas défendre les idées de François Hollande qui sont de vouloir augmenter la dette de la France. Alors c'est vrai que ces deux partis se rejoignent parce que tous les deux, UMP et FN, veulent promouvoir les valeurs de la France qui sont le travail, qui sont la santé, parce que les deux...
La plupart des gens ont quand même l'impression qu'il y a une certaine haine de l'étranger, une haine de l'autre, de la part du FN ou de l'UMP.
Oui, mais ça c'est tout ce qu'on entend dire, mais
on a entendu les discours de Guéant, les discours de Sarkozy.
Pardon ?
On a entendu les discours de M. Sarkozy ou les discours de M. Guéant là-dessus, qui sont quand même assez rudes, il faut le dire.
C'est quoi la vérité ? C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont venir en France. Moi, c'est mon opinion personnelle. Il y a des gens qui vont venir en France, voilà, et par exemple, il y a le droit du sol. Vous trouvez pas que c'est un scandale ? Quelqu'un vient habiter là ? Voilà, l'idée du FN, c'est d'enlever le droit du sol. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres, mais finalement qui paraissent assez logiques aux yeux des autres. Après, c'est quoi les autres idées ? J'ai entendu ça rapidement à la télé. Hein. Le FN, ils veulent faire quoi ? Ils veulent réduire les coûts d'essence en prenant le salaire de EDF et de la SNCF. Vous en avez peut-être entendu parler. Je pense qu'il faut être un peu lucide là-dessus. Il y a les autres pays qui l'ont fait. Elle n'a pas des idées que mauvaises. Je pense qu'il faut, changer un peu de stratégie.
Merci beaucoup, en tout cas.
C'est quelqu'un que je suis depuis 5 ans déjà, depuis qu'il a été élu président. Et je trouve que les réformes qu'il a appliquées... ont été nécessaires au développement et à la poursuite de la grandeur de la France.
Donc votre bilan depuis 5 ans est plutôt positif ?
Exactement.
Malgré les différentes casseroles, l'affaire Karachi et autres qui ont pu...
Oui, malgré ça, de toute façon, chaque président a toujours son lot de critiques à la sortie. Et bon, c'est inévitable, hein. Les critiques, vous savez, c'est normal qu'il en pleuve. Hein. Mais malgré ça, je trouve que... D'ailleurs, je n'ai rien à lui reprocher là-dessus, hein, mais ouais, je trouve que c'est quand même un bilan positif.
Et vous pensez réellement qu'il va être élu en 2012, malgré les sondages qui le mettent en première place ?
Je vous répondrai de la manière suivante, je l'espère. Voilà.
Je vous remercie bien.
Et moi j'ai une petite question. Oui. Que pensez-vous du fait qu'il y ait un certain nombre de gens quand même relativement importants qui dit que désormais la frontière entre le Front National et l'UMP est extrêmement fine suite aux déclarations différentes de M. Sarkozy, de M. Guéant et Hortefeux par exemple?
Vous savez, je crois que ce sont des gens qui ont plutôt tendance à polémiquer et qui ont peut-être peur de certaines vérités. Voilà.
C'était un soir au clair de lune, ouvrant la porte en joie tout gai. Trois secondes après, deux hommes en noir avaient piqué mes nains de jardin. Jamais blanche neige et les sept nœuds. allez. À toi Merlin, j'ai demandé pourquoi cela m'est arrivé.
Pavé dans ton nu, on ne sort pas le 90 FM, émission exceptionnelle à l'approche du premier tour des élections présidentielles. Nous avons interviewé les 10 candidats et même ceux qui auraient voulu l'être et qui ne l'ont pas pu, faute de signature d'élus. Les 10 candidats ou leurs proches portent parole, comme vous avez pu entendre Valérie Pécresse il y a quelques instants. Et en fin d'heure, vous aurez l'occasion d'entendre Harlem Désir, numéro 2 du Parti Socialiste et bien évidemment soutien de François Hollande. En attendant, voici Rémi qui était sur une manifestation en marge du meeting du président sortant à Caen le 6 avril 2012. Et puis les nains de jardin, c'était Merzine à l'instant. Donc nous sommes le 6 avril devant la place du théâtre de Caen. Je suis avec Rémi. Alors Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là? C'est une manifestation anti-Sarkozy?
Alors c'est une manifestation à l'initiative du collectif 14 pour le droit des étrangers contre le racisme et les idées d'extrême droite. Effectivement, le collectif a décidé d'organiser ce rassemblement le jour de la venue de Sarkozy à Caen parce que c'est un collectif qui se bat depuis 5 ans pour empêcher des expulsions de sans-papiers et d'étrangers hors de France. On a subi la politique raciste de Sarkozy qui consistait à expulser au départ 20 000 étrangers par an, puis on est arrivé à 26 000 étrangers par an et dans des conditions lamentables. On a même vu des sans-papiers il y a quelques années qui craignaient tellement les forces de l'ordre qu'ils se jetaient par les fenêtres pour échapper aux forces de l'ordre et qui sont malheureusement décédés. Donc ça a été le combat du collectif pendant ces 5 années. Au-delà de ça, on dénonce tout le climat raciste qui a mis en place par Sarkozy, qui a repris les thèses du Front National. On a bien vu que Sarkozy qui avait réussi à faire baisser le Front National, n'a pas fait baisser les idées du Front National. Il a au contraire renforcé le Front National en appliquant sa politique pendant ces 5 années.
Et en dehors de l'aspect immigration, globalement, quel est ton bilan, toi, des 5 ans de règne de Sarkozy?
Mon bilan, je retiens les petites phrases, celle d'Hortefeux, par exemple, qui a été condamnée pour racisme. Un Auvergnat, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça te pose problème, par exemple.
Ah, c'était sur les immigrés.
Non, c'était sur les Algériens.
Les Algériens.
Oui, il s'est piteusement justifié que, en fait, c'est une blague sur les Auvergnats, mais bien sûr, personne n'y a cru. Il y a eu récemment Sarkozy qui a parlé des Français d'apparence musulmane. C'est vraiment les petites phrases qui font surgir leur côté raciste clairement et xénophobe ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place cette politique raciste en fait et on peut à la limite se demander pourquoi est-ce que ce sont vraiment des ratés de communication ou c'est pas plutôt des invitations aux électeurs du Front National à voter pour eux en fait. Est-ce que c'est pas très très savamment calculé ce genre de petit dérapage?
Il y a des rumeurs qui commencent à circuler indiquant que toute l'affaire Mera a été un petit peu qu'ils ont mis un peu beaucoup de temps à l'intercepter, etc., qu'il y a eu un gros coup d'éclat autour de ça. On dit que c'est un petit peu de la manipulation aussi pour contribuer à ce que Sarko remonte dans les sondages. Quel est ton point de vue là-dessus?
Alors moi je suis pas je suis assez réfractaire en général aux théories du complot, si on peut faire rapide. Pour l'instant je reste assez prudent, mais par contre il est clair que les dernières arrestations de soi-disant islamistes où la presse est conviée à faire des images et à humilier des personnes menottées qui sont masquées qui servent d'exemple pour la propagande du gouvernement, là clairement il y a une récupération qui est très très malsaine. Sur l'affaire Mera je prononcerai pas, mais effectivement il y a une dérive de sécuritaire qui en découle qui est à mon avis assez dangereuse.
Salaud de droite. Salaud de droite. Salaud de droite. Salaud de droite. Salaud de droite.
T'as 35 ans, tu vis à Neuilly. Le soir avec tes amis, tu t'éclates dans les rallyes. Tu fais porter de bagnole ta résidence secondaire. Je veux te voir te faire la T sur un quai de RER. Salaud de droite. T'es vieux et t'as la haine des jeunes. T'as connu les Trente Glorieuses, pour toi c'était bien plus fun. T'appelles sans arrêt les flics parce que ta vie est trop vide. Et dans la bouffe de ton caniche foutrais bien du pesticide. Salaud de droite. Salaud de droite. Écoute ma voix. Salaud de droite. T'as 22 ans et t'es à Sciences Po. T'es vraiment trop méprisant, arrogant comme un capot. Tu veux une société de l'effort, mais toi t'auras du boulot. Placé par papa, maman, bien au chaud dans un bureau. Salaud de droite. Tu vis dans un bled à la cambrousse. Chez toi y'a pas d'étrangers. Et toi pourtant t'as la frousse. Ce soir tu fermes tes volets. T'as peur du noir, t'as trop maté la télé. TF1 et droit de savoir. Salaud de droite. Salaud de droite. Salaud de droite. Tu galères et t'es au RMI. Tu te fais traiter comme une merde. Alors t'es devenu aigri. T'en veux à la terre entière. Alors tu te venges comme tu peux. Arrête d'envier ton voisin. Tu verras ça ira mieux. Salaud de droite. Tu sais je suis vraiment désolé. Mais cette chanson est utile. Et je dis la vérité. Écoute ma voix. Quand elle passe à travers du matériel, on n'a pas les mêmes valeurs. 5 you à bord de Chanel. Salaud de droite. Salaud de droite. Écoute ma voix. Salaud de droite. Salaud de droite. Salaud de droite. Salaud de droite.
À l'instant, c'était King Jew de Stupeflip avec Salaud de droite, un morceau qui devient de plus en plus compliqué à gauler sur YouTube.
Mmh.
Alors que vous écoutez cet enregistrement, votre attention vous aide à vous sentir de plus en plus profondément détendu.
Radio Pulse.
Abandonnez-vous encore quelques instants à cette détente profonde qui apaise votre mental et recharge vos batteries nerveuses.
Je voudrais séparer l'oreille de son maître. L'œil.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Un pavé dans ton nu en émission exceptionnelle ce soir à quelques jours du premier tour des élections présidentielles. Voilà, c'était un petit défi un petit peu ambitieux. On a décidé d'interviewer tous les candidats hors des conférences de presse et puis vraiment lors d'interviews en tête-à-tête où on leur a posé les questions que vous nous avez transmises. Voilà, et bien tout de suite on va consacrer quelques minutes à Monsieur Bayrou qu'on a été voir, donc Bayrou, candidat aux élections présidentielles pour le Modem. Bayrou qu'on a été voir donc à Caen. Qui faisait son meeting en parallèle de celui de Nicolas Sarkozy qui n'était qu'à quelques centaines de mètres, c'est-à-dire Sarko était donc au Zénith et Bayrou était au Palais des Congrès, voilà, à côté de la piscine municipale de Caen. On a eu l'occasion de voir un petit bout du meeting et puis également d'interview Monsieur Lambert, porte-parole de Monsieur Bayrou pour le Modem et puis ancien ministre du budget sous gouvernement Sarkozy de 2002 à 2004. Voilà. Eh bien, on a fait pas mal d'interviews jusqu'à présent. Vous avez 3 heures pour vous bouffer tout ça dans les dents, pour écouter, éventuellement vous faire une opinion si vous ne savez toujours pas pour qui voter, et puis que vous ne votiez ou que vous ne votiez pas, ça ne nous regarde pas. Yeah. Voilà, c'est un choix personnel. Donc, eh bien, pour Radio Pulse, Frenchy, tu as un petit peu épluché le programme de François Bayrou, ou est-ce que tu veux commencer par un petit peu ton ressenti sur son meeting qu'on a eu l'occasion de voir en partie vendredi dernier?
Bah, c'était une grande surprise parce que Bayrou relâche vraiment une grande honnêteté. Tu vois, quand tu l'écoutes, tu sens que ce qu'il dit, il le pense vraiment, qu'il a un combat, qu'il défend quelque chose. Donc ça, franchement, ça m'a plu. On parle rarement de l'honnêteté des politiques, mais moi, j'apporte une grande accordance à ça.
Alors, il y a un sondage qui est paru tout récemment qui indiquait que Bayrou était le candidat qui semblait le donner le plus confiance en son honnêteté à la plupart des citoyens français. Ce qui est un petit peu contradictoire, c'est que on n'a pas vraiment énormément d'intentions de vote qui lui est consacrée d'après les différents instituts de sondage, quoi. Comment t'as ressenti, toi, le meeting là-bas?
Je l'ai ressenti autrement. Comment dire, j'ai trouvé qu'il avait donné vraiment des choses intéressantes. Bon, je vais t'en citer 2-3 qui m'ont plu. Comme le non-cumul des mandats. C'est vrai que c'est une question qui se pose, hein, quand on voit que Sarkozy essaie de reprendre un mandat alors que 5 ans d'échec, pourquoi on lui redonnerait une deuxième fois l'autorisation de reprendre 5 ans de présidence, ouais, alors qu'il le mérite franchement
et
pas.
Et puis dans certaines communes ou dans certains lieux de France, t'as des gens qui sont à la fois au conseil régional, conseil municipal, etc. Donc c'est beaucoup de rémunérations assez exorbitante qu'on a parfois à vie. Lorsqu'on est maire, par exemple, d'une ville, on est normalement rémunéré jusqu'à la fin de sa vie.
Et quand on a 3 postes en même temps, comment on peut se mettre à 100% dans un poste? Les gars sont obligés de faire le yo-yo entre les différents postes et ne peuvent pas travailler à fond et faire les choses à 100%.
Et puis au final, ça coûte excessivement cher si tu fais cumul depuis le début de la 5e République jusqu'à maintenant, le nombre de présidents, de ministres qu'on a eu. C'est vrai que ça fait cher un peu.
Il y a aussi d'autres choses qui m'ont intéressé. Par exemple, la reconnaissance du vote blanc. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le vote blanc et le vote nul sont mis dans le même panier, en fait. Donc c'est vraiment... Pour moi, le vote blanc est un vote contestataire, en fait. C'est-à-dire que ceux qu'on nous propose, en fait, ne nous intéressent pas, qu'on aimerait d'autres hommes, en fait, en place. Et pour moi, le vote blanc est super important dans la démocratie. Et que Bayrou, aujourd'hui, défende ça, pour moi, c'est un bon point pour la démocratie.
C'est clair que Bayrou, il est vraiment en phase, on pourrait dire... Quand on le voit avec la démocratie, quoi, il propose des idées pour l'améliorer, en quelque sorte.
Carrément.
Et toi, tu me disais tout à l'heure en antenne que, contrairement à ce que tu voyais de l'autre côté de la rue, en fait, le service d'ordre de Bayrou était extrêmement réduit. Je crois qu'on avait juste deux petits gorilles, en fait, qui avaient pas l'air d'être bien méchants non plus.
Comparé à combien 32 camions
30, non, j'ai compté plus de 60 camions de CRS, fois 10 CRS, ça fait plus de 600 CRS pour un meeting de Nicolas Sarkozy qu'on pourrait imaginer qu'il ait la même chose dans chaque ville où il fait un meeting.
D'ailleurs, on n'a pas eu la possibilité de passer les barrières de flics alors qu'on s'était adressé en tant que presse. En fait, on était venu là pour des interviews et pour faire des interviews des représentants de Monsieur Nicolas Sarkozy, et ils nous ont quand même empêchés de passer.
Alors qu'en plus on a été jusqu'à aller au siège du, enfin, au QG national de Sarkozy mercredi juste avant.
Ah, t'as du courage.
J'ai réussi à rentrer à l'intérieur, j'ai passé les contrôles et tout. Et j'ai dit, mais écoutez, ça fait déjà plusieurs jours que je vous demande mon accréditation pour vendredi. J'ai aucune réponse. Tous les jours, je la demande. Je vous ai téléphoné la semaine dernière en vous disant que je passerai probablement mercredi. Ben, on est mercredi, coucou, me voilà. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir mon badge, quoi. On m'a filé un post-it, je m'arrête même pas une carte de visite, tu vois, papier glacé, non. Un petit post-it vite fait, coup de stylo bic, hop, tiens, t'as mon adresse mail, tu m'écris. Et ce que j'ai fait, toujours pas de réponse, donc on a essayé d'y aller comme ça. On a été obligé de se rabattre un petit peu sur les militants, alors que chaque candidat ou leurs proches représentants quasiment nous ont accordé tous une bonne dizaine, voire une quinzaine de minutes, et même pour certains, on a été obligé de couper un petit peu parce qu'ils ont débordé les quotas. Donc voilà, encore d'autres ressentis. Bah tiens, d'ailleurs, on peut peut-être encore parler du service de sécurité de Bayrou. Alors je sais que c'est pas un programme, mais est-ce qu'on peut le dire ou pas? Tu t'es lancé un petit défi? Non, tu préfères pas. Bon, voilà, en tout cas, c'est un bon souvenir, c'était sympathique cette petite journée parce qu'on a interrogé pas mal de gens, des militants de tous bords, UMP, de droite, de gauche. On a même rencontré des gens, comme vous aurez l'occasion de l'entendre dans cette émission, vous avez peut-être eu l'occasion de l'entendre tout à l'heure, des aristocrates porteurs de la carte UMP qui votent pour Philippe Poutou. C'était très fort. Voilà.
Jeune peuple converti à Poutou.
Donc votre ressenti global donc, sur le meeting de Bayrou. Il y a un mot qui est à la mode en ce moment, c'est la ferveur. Alors, est-ce que vous trouvez que c'était rempli de ferveur?
C'était rempli de ferveur. À la fin, tout le monde était avec lui, chantait la Marseillaise et tout. Bon, moi, je ne me suis pas du tout retrouvé là-dedans, mais...
Ouais. Et ce qu'on pourrait lui reprocher, par contre, c'est le fait qu'on n'ait pas pu le voir, en fait, lui parler. Il s'est très vite esquivé, malheureusement. Peut-être qu'il avait d'autres rendez-vous à côté, je ne sais pas, mais on aurait voulu lui poser des questions. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion.
Alors, d'un côté, la presse, du côté du Zénith, a été accueillie par les Robocop, hein, 600 à peu près. Et de l'autre côté, on avait le service de presse qui était toujours avec nous, qui nous a permis d'approcher et interviewer quelques-uns de ces porte-parole. Donc voilà, des fois on dit être entre le marteau et l'enclume, mais là on était entre les matraques et pas grand-chose. Bah, merci.
La voix pouf, polémique.
Insupportable.
Caricature.
Trucage.
Marine Le Pen.
Poule grasse.
On Blu-ray, DVD, VOD.
Il faut supprimer le Front National.
Ah non, c'est pas ça. Il faut surtout valoriser la haine. Je suis d'une brutalité que je crois pas un Français n'imagine même. J'ai craché sur des militants socialistes, j'ai jeté des pierres sur une de vos consoeurs qui a eu le crâne ouvert.
Est-ce que les profs sont au niveau de l'école ou pas?
Moi je crois que les profs sont mauvais, il faut juste les abandonner. La preuve d'ailleurs c'est que les enfants qui sortent de CM2 sont communistes, rien de très extraordinaire.
Quelques auditeurs vous attendent là, Marine Le Pen.
Allez-y. Alors Fabrice...
Moi je vous trouve honnête, intègre et courageuse.
Non mais n'importe quoi. Non, c'est faux.
C'est faux. Ah bon, c'est faux.
Non, c'est faux. J'appelle tous nos auditeurs à aller sur mon site de campagne, Marine Le Pen 2012. Vous cliquez sur Pipo, Gogo. Et vous allez voir que moi, je suis pour le démantèlement de tous les immigrés. C'est des paresseux.
Mais non.
Mais si, systématiquement, et c'est un véritable scandale. Tous les bagayokos, ils veulent pas travailler. Ils sont désassistés. Stop.
Bon.
Mais pour ça, il va falloir aussi, qu'est-ce que vous voulez, arrêter les Français. Tous les Français, quels qu'ils soient, méchamment, j'aimerais bien...
T'es une catastrophe, oui.
Oui.
Cette femme est bien plus dangereuse que son père.
Bien sûr que oui.
Oui, 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 bien sûr.
Moi, je suis en réalité insupportable. Je suis une poule grasse, voilà. C'est la grande différence qu'il y a entre le Front National et les autres partis politiques.
Marine Le Pen, merci.
Pipo, gogo.
Écoutez, je suis de ceux qui pensent que la religion musulmane est une religion formidable, mais c'est tellement facile à la... Bon, par conséquent, moi je suis un musulman radical à la con. C'est formidable. Et alors,
ce soir nous interviewons un musulman terroriste sadomasochiste qui aime se faire attacher au radiateur tandis que sa femme musulmane le fouette avec des côtelettes de porc.
Effectivement, n'est-ce pas? C'est moi qui voulais faire aller à Toulouse, n'est-ce pas? Mais j'ai été doublé, n'est-ce pas?
Vas-y, Jean-Marie, arrête tes conneries, t'as reconnu.
Oh, je ne suis pas si raciste que ça, n'est-ce pas? J'ai fait un meeting avec ma fille, n'est-ce pas, à Nice? Nous avons mangé au négrillo, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas si racistes que ça, n'est-ce pas? Tant que c'est le nom du restaurant, nous sommes tolérants, n'est-ce pas?
Ouais, est-ce que c'était du raloufala, là?
Bonsoir, moi je crois pas là, c'est...
Non, non,
j'aime les gros...
Non mais non, n'est-ce pas? La France des vergognes, n'est-ce pas? Je ne mangerai jamais halal, n'est-ce pas?
Sarkozy, elle est magnifique.
Ah, attention, elle va nous faire monter l'audience.
Monsieur Sarkozy, il est tellement excitant, ah oui.
Hey, mais... N'est-ce pas, voter Sarkozy, hey, c'est voter le diable.
Vous êtes prêts pour une radio du groupe R?
Ouais, tu, ouais, tout à fait.
Tu crois qu'il faut qu'on suspende la queue à son crâne pour faire de l'audience?
Voilà. Effectivement, il ne faut pas voter Sarkozy, n'est-ce pas? Le vote utile est une abomination, n'est-ce pas? 9999, vote utile! Votez Marine Le Pen! Pour une France saine, pour une France pure, pour une France arienne, n'est-ce pas?
Vous voulez changer de sonnerie?
Oui.
Téléchargez
Jean-Marie Le Pen
sur votre téléphone portable.
C'est irrésistible.
Envoyez le mot
choufa
et recevez la sonnerie. Sur votre mobile, tapez
crabouillé, rogne.
99 euros par envoi hors coût d'un SMS.
Comment?
100 SMS offerts pendant un mois vers tous les débiles.
C'est bien.
La voix off et Polémix.
Polémix, ça, vous adorez ça et vous vous frottez les mains.
C'est réalisé avec trucage.
J'accueille Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, vous êtes particulièrement inhumaine.
Oui.
Et vice-présidente du Front Scrognonieux.
Oui, parce que je suis immonde. Je veux dire, c'est horrible, quoi.
Vous avez poussé votre père, Jean-Marie Le Pen, à boire pour le tuer et pour hériter.
Oui, mais et alors? Ça n'a pas changé grand-chose, très objectivement. Par conséquent, mon père a pris un petit garçon d'un an, l'a mis dans un tiroir et l'a oublié, bon.
Alors, votre père, vous dites qu'il a éventré vos deux sœurs.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il nous a élevés dans l'idée de la mort la plus violente.
Alors là, vous réalisez d'un seul coup, à l'âge de 8 ans, que votre père est nazi, quand même.
Oui, je me rends compte que je suis la fille d'un homme parfaitement inadmissible. Cette espèce de monstre, j'ai compris après qu'il éventrait les petits-enfants et je pense que dans toutes les familles, ça peut se passer comme ça. C'est vrai que éventrer les enfants, c'est pas si dramatique que ça. C'est une bonne leçon de vie, je trouve.
Ouais. Alors, comme votre père pose habillé en soubrette dans Playboy...
Je m'en réjouis, ouais. Je vous cache pas.
Vous commencez à avoir une vraie relation avec lui.
Oui, c'est vrai que le côté rire graveleux, on ouvre le Playboy, on est très intime. Bon, c'est super rigolo.
Et là, vous, il vous explose avec vos deux sœurs. Pourquoi?
Bah parce que j'ai compris après qu'il était un danger, effectivement, éminemment destructeur. Et encore aujourd'hui. Il a intégralement éventré ma mère. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Je pense que ça arrive dans d'autres familles.
Ça la fout mal quand même, quoi.
Ouais, ça la fout un peu mal.
Alors, pendant deux semaines, vous allez boire.
J'ai pris un jour de la drogue très dure. Ouais. C'est au moment de l'attentat de la rue Copernic. Les copains arrivaient, ils partaient jusqu'à 4h du matin pour refaire le monstre, encore une fois, qui fait peur aux petits-enfants. Ils ne savaient jamais combien on serait à dîner. Ma mère faisait des pâtes pour la terre entière. Bon.
Alors, en 1991, vous devenez homo et immigré en situation irrégulière.
Oui, je me suis inscrite.
Ouais.
Jean-Marie Le Pen, qui a eu son premier rapport sexuel et oups, qui a oublié sa pilule, je pense que c'est un mythe.
Il est dit des champs nazis, son grand pote, c'est Léon Gauthier qui était dans la Waffen-SS. Enfin, je veux dire, ce type est un nazi.
Non, mais très probablement, c'est dommage. Je suis malheureuse, ouais. mais voilà, c'est la merde. C'est terrible. Moi, j'ai tellement honte. Je vais partir au Pôle Nord, je sais pas.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Donc nous sommes le 31 mars 2012 à Caen, en compagnie d'Harlem Désir, numéro 2 du Parti Socialiste, également député européen. Le PS a soutenu le oui pour le vote de la Constitution et la majorité des électeurs ont voté pour le non. Qu'est-il prévu pour tenir compte de ce résultat?
Bon, d'abord, je pense qu'il faut dépasser ce clivage du oui et du non au sein de la gauche et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes face à une élection présidentielle où il y a aussi un enjeu européen puisque on voit bien que Nicolas Nicolas Sarkozy avec Angela Merkel mène une offensive pour essayer d'imposer à toute l'Europe un traité qui est censé répondre à la crise mais qui en fait va étendre et imposer l'austérité qui ne permettra ni de sortir de la crise de l'endettement puisque les marchés eux-mêmes disent ah très bien il y a de l'austérité mais alors il n'y aura pas de croissance puisqu'il n'y aura pas de croissance il n'y aura pas de rentrée fiscale et donc on ne voit pas comment vous allez sortir du désendettement et qui surtout va aggraver la situation économique et la situation sociale. Dans nos pays, on voit le désastre des plans qui ont été imposés à la Grèce, la situation qui se dégrade de nouveau en Espagne, l'Italie qui, elle aussi, est menacée de ne pas s'en sortir à cause de ces politiques d'austérité. Et donc François Hollande, très courageusement, a engagé une bataille dans laquelle il a entraîné d'ailleurs les autres forces de gauche, les socialistes et sociodémocrates de toute l'Europe, qu'il a réuni à Paris pour dire qu'il demanderait la renégociation de ce traité et que fort de la légitimité qu'il aura reçue du peuple, c'est-à-dire du souverain en France, eh bien, il demandera à ses partenaires européens que puissent être discutées les conditions d'une relance en Europe avec des instruments pour soutenir la croissance, pour soutenir l'emploi, pour soutenir de grands projets européens. Il se bat pour que la Banque Centrale Européenne puisse jouer un rôle plus actif, pour qu'il y ait des euro-obligations, c'est-à-dire que contre la spéculation et pour aider les pays qui sont surendettés, on mutualise les dettes, pour qu'il y ait une taxe sur les transactions financières, une vraie taxe Tobin européenne, non pas la pseudo-taxe qu'a proposé Sarkozy et Merkel, qui permettent de lever des fonds, de réguler les marchés et de financer non seulement la solidarité avec le Sud, mais aussi des projets d'avenir en Europe. Donc il y a aujourd'hui, dans l'approche de François Hollande, la volonté de prendre en compte à la fois la construction européenne. Nous ne pensons pas qu'il y ait de réponse aux grands défis d'aujourd'hui sans la dimension européenne, sans la dimension continentale, mais d'entendre aussi ce qui s'est exprimé au moment du référendum, où beaucoup d'hommes et de femmes ont fait le choix du non. Moi, j'avais fait le choix du oui, mais eux ont fait le choix du non pour contester l'orientation libérale et exprimer un certain désenchantement vis-à-vis de la construction européenne. Donc, si on veut une vraie ambition européenne, si on veut une nouvelle relation franco-allemande qui soit un moteur pour une Europe au service des peuples, le seul vote crédible, c'est celui pour François Hollande.
D'accord. Chaque candidat de toute sensibilité s'accorde à dire que la campagne de M. Mélenchon était plutôt très réussie. Il grimpe à une vitesse folle dans les sondages. Il aura même été, durant quelques jours, d'après certains organismes de sondage, le troisième homme devant Marine Le Pen. Tandis que François Hollande a un petit peu cédé sa place de leader au premier tour au profit du président sortant. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir un second candidat fort à gauche en la personne de Jean-Luc Mélenchon pourrait créer un 21 avril bis ?
Je respecte évidemment la campagne menée par les autres candidats de gauche et en particulier celle qui est menée par Jean-Luc Mélenchon. Et dans cette campagne, nous n'avons qu'un adversaire, c'est la droite et l'extrême droite. Je voudrais d'ailleurs aussi rappeler cela à tous nos partenaires de la gauche. Respect mutuel et unité, pas de petites phrases ou de petites déclarations qui puissent nous affaiblir réciproquement et qui puissent en particulier affaiblir celui qui portera nos couleurs au deuxième tour. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut quand même se souvenir que dans une élection présidentielle, la force, le rapport de force, la dynamique, ça se crée au premier tour. Et que donc il faut entendre toute la gauche, mais qu'il faut créer les conditions de la victoire de François Hollande le 6 mai, en lui donnant le maximum de voix le 22 avril. On ne peut pas prendre le risque ni de l'abstention ni de la dispersion. Tous les messages devront être entendus. Toute la gauche sera rassemblée au second tour. Mais moi j'invite les électeurs qui veulent être certains de la victoire à ne pas se tromper. Il faut que François Hollande arrive très fort au soir du premier tour face à Nicolas Sarkozy. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir un second tour qui soit incertain. Donc nous faisons campagne, nous, pour dire que pour celles et ceux qui veulent des réponses sur l'emploi, sur l'éducation, avec les engagements de François Hollande, qu'on connaît, les 60 000 postes à recréer, pour le pouvoir d'achat, pour les familles en difficulté, avec les engagements qu'il a pris de moduler les prestations familiales pour augmenter de 20%.
25% l'allocation de rentrée scolaire, les mesures qu'il propose concrètes sur le logement, sur la réquisition de terrain de l'État, sur la loi SRU et l'obligation de la mixité sociale, sur le blocage des loyers. Si on veut toutes ces réponses concrètes, il faut que la gauche puisse emporter le 6 mai pour que dans les 5 années qui viennent, il n'y ait pas simplement eu une espérance, mais qu'il y ait une action, qu'il y ait un changement de politique. Les hommes et les femmes qui ont souffert de la politique de Nicolas Sarkozy, c'est cela qu'ils attendent. François Hollande, il est aujourd'hui le candidat d'un espoir, du rassemblement. Eh bien, il faut lui donner cette force de l'emporter face au président de l'échec et de la division des Français qui est Nicolas Sarkozy dès le 22 avril.
Lors des élections de 1981, François Mitterrand donc accède à la présidence de la République. L'une des premières lois que le PS a mis en place consistait à permettre aux associations, entre autres, de créer des radios locales. Donc il y a de cela à peu près, un peu plus de 30 ans maintenant. Aujourd'hui, la plupart des médias de presse écrite et audiovisuelle confondus sont entre les mains d'une poignée de milliardaires. Il ne reste plus que quelques petites radios locales associatives qui ont beaucoup de mal à survivre face aux pétroliers qui dégagent sur Rondersienne. Donc si François Hollande devient président en 2012, quelles seront les mesures que vous prendrez pour l'indépendance des médias ?
D'abord, il faudra prendre des mesures, comme vous l'avez dit, contre l'hyperconcentration par les grands groupes. Pardon, il faudra prendre des mesures contre la concentration des médias, aussi bien dans le domaine de la radio que dans le domaine de la télévision et de la presse écrite, par quelques grands groupes industriels, qui sont d'ailleurs souvent des groupes assez proches du président actuel, et garantir, puisque c'était l'esprit de la loi qui a été votée par la gauche quand il y a eu la libération des ondes, la pluralité, le pluralisme des types d'organes de presse. Et les radios associatives doivent être soutenues, elles doivent être encouragées. François Hollande a pris des engagements dans ce domaine. Elles contribuent à la liberté d'expression, à sa diversité. Elles contribuent aussi au lien civique, à la vie associative. Et donc, elles doivent être soutenues et ne pas être asphyxiées au profit de grands groupes financiers.
Alors, concernant certains imbus de la part d'un certain nombre d'agences bancaires, dont bon nombre français sont victimes par exemple de commissions d'intervention, frais de forçage qui sont interdits via une loi européenne établie en février 2008. Donc la plupart des Français sont donc volés et bien souvent jusqu'à un SMIC par an par leur agence. D'autres signent des crédits revolving sans même savoir de quoi il s'agit. Que comptez-vous mettre en place pour empêcher les criminels en col blanc d'agir de cette manière ?
D'abord, il faut lutter contre ces abus du système bancaire, du surendettement, dont on a vu d'ailleurs les dégâts dans d'autres pays, je pense au subprime aux États-Unis. En fait, c'est une logique. Faute de rémunérer vraiment le travail, d'augmenter les salaires, on pousse les gens à s'endetter pour qu'ils continuent à consommer, parce qu'on a bien besoin qu'ils consomment pour alimenter la machine économique, mais on les surendette avec des taux qui sont prohibitifs, qui sont usuriers et qui les mènent ensuite à la faillite personnelle. C'est une absurdité aussi pour le système économique global, parce qu'à la fin, ce sont les systèmes bancaires eux-mêmes qui finissent par être en danger. Enfin, ils comptent toujours sur l'État pour les renflouer et pour les sauver. Donc il y aura d'abord une séparation dans le monde bancaire entre les banques de dépôt et les banques de spéculation, les banques qui utilisent le dépôt des épargnants pour aller faire des activités se terminent en catastrophe financière. Et il faudra que le système bancaire soit mis au service des ménages et des entreprises qui en ont besoin pour se développer. Et pour les ménages, que l'on lutte contre les abus des commissions, des taux de crédit qui sont bien au-delà de ce que en fait les banques ont besoin de pratiquer, parce qu'elles empruntent très peu cher auprès de la Banque Centrale Européenne maintenant ou auprès de la Banque de France. Donc il y a effectivement un encadrement du système bancaire. La banque doit être un bien public au service de la société, au service des ménages, au service des entreprises, et non pas dans une logique où l'argent tourne pour lui-même. Merci beaucoup.
Merci. Eh bien, l'instant, c'était une interview de Harlem Désir, numéro 2 du Parti Socialiste, interview réalisée à Caen le 31 mars 2012.
temps, ça virait, on peut essayer.
Eh bien, vous le savez, nous sommes dans l'obligation de laisser une équitabilité de temps de parole entre chaque représentant de chaque parti. Il reste un petit peu de temps de crédit disponible pour laisser parole aux gens du Parti Socialiste. Voici l'équipe de campagne du PS d'Alençon. On ne diffusera évidemment pas l'ensemble des questions puisque nous sommes obligés de garder le même temps de parole pour tout le monde. Donc, traitons maintenant du cannabis puisqu'on n'en a pas parlé.
Voilà, nous sommes à Alençon le 5 avril 2012 avec l'équipe de campagne locale de Monsieur François Hollande dans le cadre des élections présidentielles. On a fait quelques minutes avec Arlène Désir il y a quelques jours. Il reste encore un crédit de temps pour le PS. Donc on va faire un petit tour de table. Nous sommes avec quatre donc représentants du PS. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Claude Antoine, 64 ans. 64 ans. Retraité.
Retraité.
Kevin Baudet, 25 ans, secrétaire de section.
Et maire adjoint de la ville d'Alençon.
Tout à fait.
Jean Charbonneau, 64 ans.
Martine Duval, 48 ans, trésorière adjointe au Parti Socialiste. Si je veux enjamber l'horizon.